Alors, je suis content d'être là, parce que la France, non seulement parce que la France est victorieuse, mais parce qu'en Jésus, nous sommes tous victorieux. Amen. Mais si vous pensez que la Suisse va gagner, vous avez plus de foi que moi. Non, je plaisante. Vous savez, il y avait un rabbin et un prêtre qui étaient des amis proches. Et chaque dimanche, ils se réunissaient pour regarder un match de foot. Et ils se sont promis l'un et l'autre que peu importe leur différence de croyance ou de confession, que le premier qui mourrait reviendrait en vision pour dire à l'autre si on joue au foot au ciel. Donc le prêtre meurt en premier et le rabbin se réveille au milieu de la nuit. Alors, est-ce qu'on joue au foot au ciel? Ah oui, on joue au foot au ciel et le gazon est glissant et le ballon va exactement là où tu y vas. Et en plus, Jésus, c'est l'arbitre. Et pour cela, le rabbin n'était pas très content, mais voilà, il était content. Mais le prêtre lui avait dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on joue au foot au ciel. Quelle est la mauvaise nouvelle? Eh bien, tu joues la semaine prochaine. Mais on est tous victorieux en Christ. Et quand je chante ce chant merveilleux qu'on venait de chanter, je pense à ce verset, tous les peuples et toutes les nations... Bien sûr, ils vont chanter aux gloires du roi d'Israël, du Messie d'Israël. Et pourtant, beaucoup d'Israël ne le reconnaissent pas, ne reconnaissent pas Jésus, Yeshua, comme le seul sauveur, comme le Messie d'Israël. Et c'est tout le travail et l'enjeu de Juifs pour Jésus. Et pendant qu'on chantait ce chant, me venaient à l'esprit les noms et les visages de ceux de mon peuple, de ceux de ma propre famille qui ne reconnaissent pas. Et je dis, Seigneur, qu'ils puissent être là ce jour J pour chanter tes louanges aussi. Alors, en discutant avec Philippe, on s'est dit que ce serait bien de parler un peu de la situation aujourd'hui dans le monde et quel doit être notre positionnement, notre avis, notre attitude vis-à-vis de ce qui se passe. Le monde va mal, n'est-ce pas? Et les situations sont complexes. La souffrance est énorme. Ce n'est pas seulement des rumeurs de guerre, c'est de guerre tout court et partout. Et semble interminable. Qui ont son impact sur nous en Europe de l'Est. On le ressent surtout dans le portefeuille, n'est-ce pas? Mais, laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous voyez dans les réseaux sociaux concernant Israël, le Moyen-Orient, concernant la guerre en Ukraine, concernant les incertitudes politiques aux États-Unis, Trump et tout le reste que vous pouvez entendre, sachez que nous sommes appelés à regarder une autre réalité. Nous sommes appelés à regarder le monde à travers le filtre de la Bible. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai vu, c'est que la Bible a raison. Et la Bible détient l'ultime réalité. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, en Israël, après les attentats, on a vu une ouverture énorme. Déjà, seulement cette année... Nous avons, dans les deux premiers mois de l'année, on a vu 300 demandes de Nouveau Testament d'Israéliens qu'on ne connaissait pas. En Ukraine, mes frères et sœurs en Christ en Ukraine, que parmi les Juifs, ont vu 7000 moments d'évangélisation. Ils ont pu témoigner à 7000 personnes juives. Ils ont vu en Ukraine 9 baptêmes seulement cette année. Et on voit les cœurs s'ouvrir, les gens venir à Christ. Et laissez-moi finir avec la France, parce que la France, parmi tout ça, c'est le plus dur. C'est connu comme le noyau le plus dur. Entre missionnaires, on appelle la France le cimetière des missionnaires. Parce que là où personne n'est réussi, une communauté évangélique très petite, une communauté musulmane des plus importantes en Europe, aussi, il y a 2 fois plus de juifs en France que de chrétiens évangéliques, vous le saviez-vous? Et pourtant, cette année, nous avons vu... 7 personnes juives donner leur cœur à Christ. 7 personnes juives qui vont chanter ce chant à la fin des temps, gloire à l'agneau. Donc le thème de ma prédication ce matin, c'est « Peut-on se réjouir de la mort des impies, la mort des injustes ?» Parce que c'est ça ce qui fait soulever des bannières et rallier des peuples et renvoyer en guerre. Et pour les chrétiens, il est très important de se souvenir que la bannière que nous devons toujours soulever, c'est la bannière de Christ. Et pourtant, je vois qu'on tombe souvent sous des bannières politiques nationaux et autres. Le 28 février, c'était juste au début du Purim, j'étais en Israël, Ayatollah Khamenei a été tué. Les Israéliens ont confirmé qu'il est décédé. Et les gens se réjouissaient dans les ruelles de Téhéran, des cris de joie dans le monde entier. La réaction était similaire à la mort d'Osama Ben Laden, si pour ceux qui se souviennent de ça, ou Saddam Hussein, ou encore Klaus Barbie, le fameux boucher de Lyon, qui avait envoyé 14 000 personnes juives et résistants au camp de concentration. J'ai eu téléphone à un ami pasteur iranien. Cet ami a fait 5 ans de prison. Un pasteur d'arrière-plan musulman avait été torturé, a passé un an en prison en isolement. On dit ça, isolement, n'est-ce pas? Et 5 ans au total en prison, il a pu s'en échapper. Et il est pasteur d'un petit groupe de réfugiés iraniens en Turquie. Et je l'ai eu au téléphone à ce moment-là, il avait une petite voix et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Il m'a dit, non, c'est juste que moi et les frères ici, on ne cesse de crier de joie de la nouvelle que Ayatollah Khomeini est décédé. Alors j'ai raconté ça dans une petite réunion de prière à Paris et j'ai senti un gêne. Peut-être le gêne que vous sentez ce matin quand je vous ai dit ça. Peut-on se réjouir de la mort de méchants? Vous savez, la fête de Purim est une fête de réjouissance sur la mort de Haman. D'ailleurs, on mange, dans la tradition juive, on mange des osnés Haman, qui sont littéralement des oreilles d'Haman. C'est l'idée que celui qui a voulu nous détruire, nous avaler, nous manger, c'est nous qui mangeons des oreilles d'Haman aujourd'hui. Ou encore à Pessah. On vient de fêter Pessah, la Pâque juive, vous l'avez déjà vu, Juif pour Jésus est déjà venu parler de Pessah. On dit dans la Haggadah, dans le récit de Pessah, on dit, ce n'est pas seulement une fois, mais dans chaque génération, quelqu'un s'est levé pour nous manger, pour nous consumer, pour nous détruire. Mais le Saint, béni soit-il, nous a sauvegardés de sa main. Donc peut-être comme ça, j'ouvre une petite parenthèse, peut-être comme ça, c'est mieux de comprendre ce que Jésus dit, parce que manger, c'est un langage biblique pour consumer, détruire, vraiment prendre, avaler quelque part. Donc quand Jésus dit, il faut manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang, il faut le comprendre dans ce sens qu'il doit mourir et on doit accepter sa mort, consumer quelque part son sacrifice en échange de notre vie sauve. Alors, donc je me suis dit, c'est une question intéressante d'aborder cette question. Alors, je vais l'aborder comme un juif, parce que vous connaissez bien Juif pour Jésus maintenant. Donc, je me suis dit, je vais vous faire entrer à la manière dont nous réfléchissons au texte. Et donc, je vais utiliser quelques mots en hébreu, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander de juste écouter un peu différemment ce matin. Le Midrash, ce sont des histoires rabbiniques que les rabbins ont écrites pour nous aider à comprendre les textes bibliques. Et le Midrash raconte une histoire intéressante de la fuite de l'Égypte quand Pharaon et les Égyptiens ont été jetés sur la mer. Le langage est très, très fort. Ils étaient éjectés sur la plage et complètement détruits, noyés. C'est écrit que les anges au ciel ont commencé à danser, à chanter et à se réjouir. Et dans notre Midrash, Dieu dit aux anges, « Cessez de chanter, arrêtez vos réjouissances. » Mes créatures périssent et vous voulez chanter des chants? Et les anges répondent à Dieu, non Seigneur, on ne chante pas parce que vos créatures périssent, mais parce que ta justice est faite et ton nom est glorifié. Donc Dieu dit aux anges, on va garder le silence et on va donner la parole aux victimes. On va voir ce que Moïse et les Israélites font. Et à la fin de ce salut, Moïse chanta le célèbre chant de la mer. « Je chanterai avec allégresse à l'Éternel, car il a triomphé victorieusement. Le cheval et son écuyer ont été éjectés à la mer. » Et quand les Israélites se mettent à chanter, dans Exode chapitre 15, alors seulement Dieu autorise les anges aussi à célébrer. Peut-être en cela, il y a un début de réponse, de nous laisser conduire par les victimes de la souffrance, les victimes de la violence, et en l'occurrence, je pense bien sûr, à l'Église persécutée. Mais on va y revenir. Tout comme dans le Midrash, dans l'Apocalypse, il y a des versets qui rendent mal à l'aise, et on ne prêche pas souvent sur ces versets. Actuellement, en ce moment même, il est 10h18 du matin, dimanche matin, actuellement, en ce moment même, au ciel, les saints, les martyrs pour leur foi, la première génération de Juifs croyant en Jésus qui sont morts, Étienne étant le premier, prie ceci au trône de Dieu devant l'Éternel. Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a laissé un peu bouche bée. Donc peut-être encore, c'est le début de la réponse. Laissez-nous conduire par les victimes de la violence, par l'Église persécutée. Mais nous allons regarder ce que la Bible dit à ce sujet. Et bien sûr, d'un côté, il y a des passages qui décrivent le juste jugement de Dieu. D'autres passages nous montrent ce que Dieu attend de nous. Quand nous sommes victimes, dans le temps présent, dans ce monde déchu de souffrance et violence, aimer nos ennemis, n'est-ce pas ? Bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent et ne pas nous réjouir du malheur qu'atteint notre adversaire. Mais il y a quand même d'autres versets, comme le verset que j'ai lu en Apocalypse. Comment justifier ces deux points de vue ? En hébreu, on appelle cela « machloket min hashamayim ». Ça veut dire un désaccord profond sur les textes bibliques qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes et on se donne à dire « Seigneur, c'est toi qui sais la réponse ». Mais on ne va pas en rester là. Ces deux points de vue se trouvent dans les deux testaments. Ne pensez pas que c'est l'Ancien Testament, le jugement et la vindication, et le Nouveau Testament, c'est la grâce et le pardon absolu. Non, ça se trouve dans les deux testaments. Regardons, selon Proverbe, nous devons refléter la compassion de Dieu dans notre manière de vivre. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche, de peur que le Seigneur ne le voie d'un mauvais œil et ne détourne de lui sa colère. Et encore, dans le même livre de Proverbes, celui qui se réjouit de la calamité ne restera pas impuni. Mais toujours dans le livre de Proverbes, il y a autre chose. Il y a aussi, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, ils poussent des cris d'allégresse. Ou encore, la parole incontournable de Moïse à la fin de la Torah, après avoir répété toute la Torah, tout le plan et le conseil de Dieu aux Israélites avant qu'ils ne rentrent dans la terre promise, il dit ceci à la fin de Deutéronome. « Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. » Mais revenons au son des martyrs dans le Nouveau Testament. Parce qu'en fait, Dieu va répondre à la requête, à cette demande de vengeance de ces premiers témoins de Jésus, de l'Église primitive. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Hallelujah !» comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure. « Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé. » Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ou encore, Apocalypse dit, « Réjouis-toi à son sujet, ô ciel, et vous aussi, les saints, les apôtres, les prophètes, car Dieu, en jugeant, vous a fait justice. » Nous voyons donc une première vérité. Il est juste de se réjouir lorsque Dieu manifeste sa justice et juge le mal. Nous espérons tous la fin des maux dans le monde, n'est-ce pas ? Rappelons les versets les plus connus, par contre, à ce sujet. « Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. » Et cet enseignement, bien sûr, se prolonge dans le Nouveau Testament avec des versets que vous connaissez. Mais j'en passe. Voilà donc l'autre vérité. Dans notre conduite personnelle, Dieu nous appelle à renoncer à la vengeance ou à la vendetta personnelle et à aimer et même bénir nos ennemis. Donc il y a une distinction importante. Il y a une différence entre se réjouir de l'action juste de Dieu lorsqu'il juge ses ennemis et les nôtres, et une différence avec à prendre du plaisir personnel, à voir souffrir ceux qui nous ont fait du mal. Vous voyez les deux différences? L'apôtre Pierre, en citant le prophète Ézéchiel, va dire ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ça veut dire le Seigneur ne tarde pas à juger, à amener son monde, le royaume sur terre. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance, mes chers frères et sœurs, c'est ma mission, c'est mon ministère, c'est le plus grand bien. La tradition juive, mais Jésus aussi, met la valeur importante sur la repentance. Rappelez-vous le fils prodigue, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous avons fait une nouvelle parabole du fils prodigue que vous pouvez voir sur YouTube. C'est une interprétation moderne. Je vous invite à chercher sur YouTube « Juif pour Jésus, fils prodigue » et je vous garantis que vous allez avoir les larmes aux yeux. Donc, revenons à cette idée de repentance que Jésus met en valeur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et il répète, après avoir donné plein d'exemples, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous savez pourquoi? Je crois que Jésus connaissait ce midrash des anges qui se réjouissent à la mort de Pharaon et les Égyptiens. Et ici, il dit le contraire, il y a la joie quand un pécheur se repent devant les anges. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. En hébreu, on ne nomme jamais Dieu, on ne dit jamais Dieu. On a plein d'euphémismes et des appellations spécifiques pour ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain, qui est l'ultime péché. Et donc on utilise Hachem, le nom de Dieu, on utilise Adonai, qui est aussi maître, ce n'est pas le nom de Dieu non plus. On utilise le ciel. Rappelez-vous le fils prodigue. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il n'a pas péché contre le ciel, il a péché contre Dieu. Mais on utilise le ciel. Donc quand Jésus parle, il utilise cette même chose. Cette même chose, amis. Et donc ça veut dire que quand Jésus dit il y a la joie au ciel devant les anges, qui est devant les anges et qui siège au ciel? Ça veut dire que Jésus est en train de dire que Dieu, dans sa gloire, sur son trône élevé, quand un pécheur se repent, descend de son trône et se met à chanter, à rire et à danser parce qu'il y a une âme qui va partager l'éternité avec eux. Peut-être que notre machloket, rappelez-vous machloket veut dire dissension, comment faire, se trouve réconcilié. Ces deux points de vue se trouvent réconciliés, cette tension disparaît dans la personne de Dieu lui-même parce qu'il est à la fois jugement. Il est à la fois pardon. Moïse demande à Dieu, « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Moïse est surpris par ce que la gloire de Dieu est. Voici ce que la gloire de Dieu est. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. » Riche en bonté et fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, il pardonne, le péché, il pardonne, mais, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. La joie sainte devant la justice de Dieu, directement liée à sa compassion, et miséricorde, et la joie mauvaise d'une revanche personnelle, la vendetta. Cette distinction est essentielle. Et comme je suis missionnaire, je filtre tout par un langage qui cherche à parler à des non-chrétiens. Donc quand je vois, si vous vous souvenez, quand Saddam Hussein est tombé, est-ce que vous vous souvenez de Saddam Hussein? Vous vous souvenez des images à la télé, parce qu'il y avait des énormes statues de Saddam Hussein, un peu comme Nebuchadnezzar, des énormes effigies de lui partout dans le pays. Ils ont poussé les effigies qu'ils tombent et ils ont pris leurs souliers, vous vous souvenez? Et après, ils ont tapé sur leurs souliers. C'est le pire d'insultes au Moyen-Orient. Ça veut dire que je domine sur toi. Donc, si jamais vous êtes face à des orientaux, il ne faut jamais leur montrer les pieds. Je sais que nous avons des tabouets, on met les pieds. Il ne faut jamais faire ça, parce que c'est une insulte, c'est dire « je domine sur toi ». Même David avait cet aspect, parce que quand il a conquis Édom, il a dit « je jette mon soulier sur Édom et Moab ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce psaume. Et donc, c'est ça la domination. Mais quand je vois des gens qui se réjouissent de la mort de quelqu'un, une mort juste, une mort ou un jugement qui tombe, par exemple Klaus Barbie, les victimes ne pouvaient pas vivre jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Les victimes de Klaus Barbie avaient survécu ces tortures et ils s'évanouissent, ils pleuraient. Ça veut dire qu'au plus profond de nous, au plus profond de nous, nous savons cette vérité biblique. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Si on se réjouit des gens mauvais, impies, méchants qui meurent, ça veut dire que nous reconnaissons cette profonde vérité. Ça veut dire que nous aussi, nous méritons la mort. Attends, Josué, attends. Je ne suis pas Saddam Hussein, moi. Je ne suis pas Ayatollah Khomeini. J'ai mis personne en prison. OK, bah, d'accord, je comprends. Que vous êtes de bons Suisses, vous payez vos impôts, vous mangez le fromage, vous... Guillaume Tell, consensus, première démocratie, je vous admire. Je ne dis pas que vous êtes des Saddam Hussein. Saddam Hussein est là, Hitler est là, Amman est là, Khomeini est là. Vous n'êtes pas là. Je ne sais pas ce que j'essaie de vous dire. Mais le Saint béni soit-il est là. Et vous n'êtes pas là non plus. Hein? Alors, Woody Allen a dit qu'il y a une nouvelle une planète que les astronomes viennent de découvrir. Et cette planète est à 600 milliards d'années de lumière de la Terre. Ça s'appelle Helm, la planète, vous pouvez chercher. Mais il dit qu'il vient de créer une nouvelle autoroute, et ça va économiser 2 heures. De ce trajet. Peut-être on est un peu mieux, mais on est toujours à 600 milliards d'années de lumière, on est d'accord. On n'est pas Saddam Hussein, mais on n'est pas non plus le Kadosh Abaohu. Et si nous nous réjouissons, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes confrontés à cette profonde vérité, sans même connaître la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans ce cas, nous sommes tous coupables. Et la justice de Dieu, c'est de nous mettre tous sous cet arrêt, sous ce banc. Rappelez-vous qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Oui, nous pouvons nous réjouir lorsque Dieu défend sa gloire, son nom, manifeste sa justice et met fin au mal. Mais nous ne devons pas nourrir dans notre cœur un esprit de vengeance, d'amertume ou de triomphe charnel. C'est bien fait pour lui. N'oubliez pas, nous aussi, sans la grâce de Dieu, nous aussi. Alors prions, comme Yeshua nous a enseigné à prier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais je reviens à la question, peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un? Dans la conception rabbinique de la mort, il y a une mort juste, une mort qui apporte joie, une bonne nouvelle. Et c'est cette idée, dans tous les commentaires rabbiniques, s'appelle « la mort des justes peut expier », « la mort des justes peut libérer », »« la mort des justes peut pardonner ». Je suggère que certains... mort de personnes justes, et on voit des exemples comme ça partout dans la Bible, partout dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, on va y venir. Est-ce que vous avez déjà lu au sujet des villes de refuge? Les villes de refuge dans l'Antiquité, c'était 6 villes équidistantes, placées partout en Israël. Si quelqu'un était sous menace d'une vengeance ou une vendetta personnelle, il pouvait courir dans cette ville et être protégé de la famille. Mais il ne pouvait pas quitter la ville. Si jamais il sortait de la ville, l'arrêt de mort tombait sur lui. Il y avait juste une seule exception. C'est quand le souverain sacrificateur mourait. Si le souverain sacrificateur mourait, la conception, le principe, c'était sa vie juste a été est mort en échange de la vie de la personne qui est coincée dans cette prison, cette ville de refuge d'où il ne peut pas sortir. Mais bien sûr, cela pointe vers la mort des justes, le plus juste, l'exemple de Jésus sur la croix, n'est-ce pas? Pour nous aider à comprendre cette question et la finalité de notre réponse, j'aimerais que nous considérions la croix de Jésus-Christ. D'un côté, la croix est la manifestation glorieuse de la justice et de l'amour de Dieu. Elle montre que Dieu ne passe pas sur le péché comme s'il n'avait aucune gravité. Elle révèle la sainteté de Dieu, sa justice parfaite et sa miséricorde infinie. Mais d'un autre côté, la croix est l'expression de cette vendetta personnelle. C'est aussi une scène de souffrance indicible, de rejet, d'humiliation, de nudité, de douleur physique et d'angoisse spirituelle. Jésus a été frappé, insulté, méprisé, crucifié. C'est un peu mystérieux, mais l'apôtre Paul dit que celui qui n'a point connu le péché, connaissait pas le péché, ne savait pas ce que c'était, complètement ignorant. C'était la dernière, c'était même pas une dernière pensée, une arrière-pensée. Celui qui n'a point connu le péché depuis la création du monde est devenu péché sur la croix. Ça veut dire que c'est comme une lave d'excréments de nos péchés est tombée sur lui, et celui qui pouvait sentir tout, ressentait tous nos péchés. Et il a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc laisse-moi, pour répondre à la question, laisse-moi changer la question un peu. Peut-on se réjouir de la mort de Jésus? Il est clair, ça précise, hein, mais il est clair qu'il y avait certains qui se réjouissaient de sa mort sur la croix. Et il y a certains qui se lamentaient de sa mort, ses disciples. D'ailleurs, Paul va dire, par rapport à ces gens qui sont réjouis de la mort de Jésus lorsqu'il a été crucifié, qu'ils n'avaient pas compris la portée de ce sacrifice. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et il dit ceci, Paul, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Mais après la résurrection, les disciples qui étaient apeurés, lamentaient, se réjouissaient de cette mort. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus, après la résurrection, gardait des traces de la crucifixion? Vous vous êtes posé cette question? Ce corps glorifié, il réapparaissait dans une pièce fermée à huis clos. Il pouvait être en Galilée à 40 km de Jérusalem en un clin d'œil. Il pouvait manger et disparaître. C'était un choc, ce corps glorifié. On ne se connaissait pas, il n'y a aucun texte qui nous permet de comprendre la résurrection d'entre les morts comme l'exemple et l'illustration de la résurrection dans la vie de Jésus. Mais s'il avait ce corps glorifié que nous savons qu'il avait, c'est dans ce même corps qu'il a pu monter au ciel et apparaître devant le trône de la gloire. Pourquoi gardait-il? Pourquoi il n'y avait pas eu guérison complète du trou? Des trous dans les mains et les pieds? Peut-être qu'il y avait une souffrance plus grande, c'est la souffrance des disciples. Qu'est-ce qui est plus difficile? De souffrir soi-même ou de voir quelqu'un qu'on aime profondément souffrir? Combien d'entre vous ont eu des amis malades ou de la famille malade? On préfère être nous-mêmes la personne qui souffre. Et Jésus, qui était leur ami, leur frère, leur père, leur maître, souffrait des pires de souffrances. Donc chaque clou était aussi une marque de souffrance sur le cœur des disciples. Donc Jésus, à la résurrection, garde ces marques et dit aux disciples, touchez-les. Et ces marques de souffrance, cette douleur devient une source de joie, non seulement pour les disciples, mais pour des millions à travers l'histoire, parce que sa souffrance et sa croix apportent guérison, et pardon. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, parce qu'il va voir une génération apparaître grâce à cette souffrance. Et ainsi, nous, chers amis, si nous amenons nos souffrances à la croix, si nous amenons ceux qui nous ont injuriés au pied de Jésus, il promet aussi de transformer nos souffrances en gloire, en joie, en guérison. Et Jésus alors, qu'est-ce que lui, il pensait de sa mort? Quelle était son attitude de cœur devant la croix? Nul besoin de deviner, parce que c'est écrit noir sur blanc. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Cela veut dire que Jésus lui-même s'est réjoui, a éprouvé une certaine joie face à sa mort, parce qu'il voyait de l'autre côté de la croix. Qu'est-ce qu'il voyait de l'autre côté de la croix? Il voyait Philippe ici, dans cette salle. Il vous voyait, vous, dans cette salle, ce matin, et la pensée de vous, la pensée que sa mort allait venir amener pardon, guérison, gloire et joie, la remplie de joie, qu'il a regardé d'en haut la croix. Et c'était une joie qui l'a motivé à souffrir pour vos péchés comme pour les miens. Peut-on se réjouir de la mort de Yeshua? La réponse est oui. Si nous considérons la croix comme l'œuvre glorieuse du salut, comme la victoire de la mort de Dieu et la parfaite démonstration de sa justice pour nos vies. Mais la réponse est aussi non. Si nous considérons la croix simplement comme un acte de torture et de souffrance, sous cet angle, nous pleurons comme sur un fils unique. Ou encore pire, de considérer la croix comme un petit bijou qu'on utilise, une décoration dans nos villages qui sont partout, c'est diminuer la croix de sa souffrance et de sa puissance. Cette analogie nous aide à comprendre mieux notre sujet. De même, nous pouvons nous réjouir des jugements de Dieu en tant qu'il se manifeste sa justice. Mais si nous considérons la souffrance de ceux qui sont perdus en elle-même, notre réponse ne devrait être jamais, au plus grand jamais, la dureté ou la cruauté. OK. Pour nous aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir des jugements de Dieu, y compris de son jugement final, parce qu'il révèle sa sainteté, sa vérité et sa justice parfaite. Oui, si nous nous souvenons que nous aussi, devant Dieu, nous ne sommes pas justes ni justifiés, si nous regardons que la mort du juste, le prince de la vie, emmène joie, si nous nous repentons pour recevoir le pardon et la vie éternelle. Dans cela, chers frères et sœurs, jamais, au plus grand jamais, n'oublions pas nos frères et sœurs qui sont persécutés par des tels mots-là, et nous réjouir de voir l'Église du Christ en Iran. Moi, je regarde le jour où l'Église de Christ en Iran est épanouie. On parle de 6 à 8 millions de chrétiens secrets en Iran. Si c'est vrai, c'est la plus grande église du Moyen-Orient. Si c'est vrai, ça peut transformer la réalité de ce que nous avons pris l'habitude de voir comme tragédie au Moyen-Orient. Prions, mais gardons nos yeux fixés sur Yeshua. Sa mort transforme nos vies. L'Évangile ou la bonne nouvelle, c'est que sa mort, sa résurrection nous pardonne, nous réconcilie avec le Dieu de l'Exode, celui qui est compatissant et lent à la colère. Paul, et ça doit transformer nos vues face à nos morts. Paul dira, la mort m'est un gain. Ou mort, où est ta victoire, ton aiguillon? Et nous proclamons sa mort jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse.